Livre de philosophie première, La personne humaine, par le Père Marie-Dominique Philippe, le 7 janvier 1999 à Saint-Jodard.
Quelqu'un m'a demandé, je dis en deux mots, en quoi la scolastique décadente, parce que le mot scolastique prend des nuances extrêmement différentes en disant que Saint-Thomas est un scolastique. C'est vrai d'une certaine manière. Une méthode qui consiste à montrer les objections et les réponses, c'est d'une certaine manière une scolastique. Mais la scolastique, c'est lorsque la métaphysique tend à s'identifier à la logique. Occam, 14e siècle. Occam, ceux qui se sont spécialisés pour Occam, quelqu'un comme André de Muralt, quand il a commencé d'étudier Occam, il me dit, mais Occam va bien plus loin que Luther. Occam n'a jamais été condamné. Il est toujours resté dans l'Église. Et Luther en est sorti. Et c'est vrai. Occam a été condamné quand même par le pape d'Avignon. Mais il est resté dans l'église, franciscain. Occam identifie métaphysique et logique. Et au fond, a toujours été en dehors de la scolastique thomiste. Donc n'identifions pas les deux, mais il y a eu cette influence. C'est que dans la scolastique, on cherche les définitions. Dans l'aristotélisme et le vrai thomisme, on cherche à préciser les principes et les causes. Or, le principe et la cause ne peuvent pas être définis. C'est au-dessus. Oui, c'est les deux registres de notre connaissance. Nous connaissons par genre et différents spécifiques la logique. Et puis, nous avons une connaissance analogique des principes. La métaphysique cherche à connaître ce qui est le réel. Et c'est toujours l'expérience à laquelle on revient. Tandis que la logique cherche la précision formelle du genre et de la différence spécifique pour définir. Oui. Quand vous définissez l'homme, animal raisonnable, est-ce une position philosophique? Est-ce une position logique? Définir l'homme, animal raisonnable, c'est de la logique. Animal, genre, différence spécifique, rationnelle. Définir l'homme par la personnalité de l'homme, ce n'est plus une définition, c'est une recherche philosophique, métaphysique. Donc, l'erreur profonde de la scolastique décadente, c'est de considérer que la logique est la partie principale. Je connais quelqu'un qu'on considère comme un excellent thomiste. Il a dit, pas devant moi, heureusement. Il fallait mieux pas. Ça m'a été répété. Qu'il aurait dit, si on voulait supprimer toutes les parties de la philosophie, sauf une, laquelle je garderai. Je crois que spontanément vous diriez tous la métaphysique. Il lui a dit, je garderai la logique. Et bien ça, c'est typiquement la position d'une scolastique décadente. Je garderai la logique. La logique, c'est propre. Tout est bien rangé. Animal raisonnable. L'animal est à la cuisine, mais il est raisonnable au salon. Vous voyez, au fond, il y a une coupure. Il y a l'animal. Tous les refoulements. Et puis, raisonnable. C'est propre. À l'extérieur. Parfaitement. Les fauteuils sont bien rangés dans le salon. On ne s'assied jamais. Et les fauteuils sont bien rangés. C'est ça la logique. La logique est excellente. Elle est nécessaire pour communiquer le plus clairement possible ce qu'on peut. Mais elle est terrible. Elle rejoint la rhétorique quand il n'y a plus de métaphysique. C'est une rhétorique propre, claire, limpide. Alors, la scolastique décadente continue de rechercher encore les principes, mais en réalité sont des lois. Et on ne parle plus de la causalité finale. La causalité finale disparaît. Donc, la scolastique décadente, c'est le glissement vers la logique qui ne fait pas partie des parties de la philosophie. Et comme dit Thomas d'Aquin, c'est un art, ars, artium, l'art des arts, parce que c'est l'art de la pensée dans sa communication. Je communique ce que je pense en vous parlant, normalement. Je communique ce que je pense. Et pour penser clairement et le communiquer clairement, la logique est nécessaire. C'est pour ça que c'est proche de la rhétorique. La rhétorique est un art de la persuasion. La logique, c'est l'art de la clarté, de la précision formelle, coupée de la métaphysique, coupée complètement de la finalité. Parce que la finalité, c'est l'amour, et donc, c'est pas très net. Pour que les choses soient nettes, n'aimons pas, et restons dans l'objectivité la plus parfaite. Alors à ce moment-là, on est objectif et on n'y comprend rien. Mais ça, c'est une question à laquelle il faut tout le temps venir. C'est pour ça que je vous ai dit, cherchez une fois dans la bibliothèque un dernier livre de logique, un dernier livre de scolastique, Macquart. Il est sûrement la bibliothèque ici. S'il n'y est pas, il faut qu'il y soit. Mais il doit y être, parce que je l'avais et je crois que j'ai donné à la bibliothèque. Je l'avais parce que à ce moment-là, on enseignait la logique. On enseignait la scolastique. Et comme il était en latin, et à Fribourg, on devait donner les cours en latin, c'était très utile, un bon dictionnaire en latin. Macquart. C'est du latin de cuisine, vous voyez. Donc, on voit ce que c'est, puisque je vous l'ai dit tout à l'heure, la cuisine, c'est l'animal. Bon. Il doit se nourrir. Pas la cuisine ici, elle est monastique. Donc, on nourrit des saints. Si on nourrit des saints, on le fait bien. Et on le fait toujours avec une fidélité très précise, parce qu'on veut nourrir des saints. Et les saints ont tous un régime spécial, un régime en vue de la sainteté, c'est assez particulier. Vous avez dit que l'homme n'est pas dans la série. L'homme prie scolastiquement, logiquement, et dans la série. Je vous connais, puisque je connais la définition animale raisonnable. Alors quand vous recevez quelqu'un que vous ne connaissez pas, ah bonjour, vous êtes pour moi un animal raisonnable. Un animal, je fais attention à vous, parce qu'il peut être méchant, on ne sait jamais. Raisonnable, nous allons voir jusqu'où. Vous comprenez bien, connaissant animal raisonnable, vous ne connaissez personne. Parce que personne, heureusement, est un animal raisonnable. Chacun d'entre nous, nous sommes des individus. Et donc il y a des bavures chez l'animal et chez le raisonnable. Il y a des originalités. Et c'est ces originalités qu'on doit regarder. C'est ça qui nous intéresse. Vous nous avez dit que l'homme n'est pas dans la série parce que son individualité est assumée par sa personnalité, est assumée par son âme spirituelle. Qu'est-ce que cela signifie, justement, que l'animal c'est quoi? C'est ce qui nous apparente au chien, au chat, au lion, à la girafe, à l'oiseau, à l'aigle. C'est sûr, un animal, il fait partie de cet univers dans lequel on est. Il est sensible, il est lié à ce monde, il est raisonnable, il est capable de réfléchir et de chercher la vérité. Qu'est-ce que cela signifie? De quelle manière la personnalité doit-elle assumer et dépasser l'individualité? La personnalité, l'âme spirituelle, mon âme, assume mon corps. Mon âme vient de Dieu, est créée par Dieu. Aucun atavisme pour mon âme. Je suis unique pour Dieu. Spécifiquement, oui, spécifiquement, toute âme humaine est la même. J'ai la même âme spécifique que celle de Saint-Louis, que celle de Thomas d'Aquin, et même que celle de Jésus. Spécifiquement, la même que Socrate, la même qu'Aristote. C'est pour ça que ce que me dit Aristote, si je connais un tout petit peu le grec, je le comprends, je le rejoins. Parce que, entre l'âme d'Aristote et mon âme, actuellement, nous pouvons nous rejoindre. Comment on se rejoint? Aristote, philosophe, cherche la vérité. Moi, petit pioupiou de la fin du XXe siècle, je cherche la vérité. Aristote, n'oubliez pas, je suis encore quelqu'un qui cherche la vérité. Dans ce monde, plus beaucoup de personnes cherchent la vérité. Aristote doit nous regarder d'une façon très particulière. Ah, ce sont mes disciples. Oh là là. Ils cherchent la vérité. Alors que, partout ailleurs, je ne cherche plus la vérité. Je rejoins l'intelligence d'Aristote comme philosophe. Je la rejoins si je cherche la vérité comme lui. Si je prends la même foi que lui, par l'expérience et par l'intelligence qui interroge et qui rejoint le réel. De quelle manière la personnalité doit-elle assumer et dépasser l'intentionnalité? Dès que vous recherchez la vérité, vous dépassez l'individualité. C'est sûr. Mon individualité, c'est quoi? Mes sens. Je touche ce bois. Vous pouvez toucher ce bois aussi. Mais mon individualité, c'est que ma sensibilité n'est pas la même que la vôtre. À côté de cette sensibilité, il y a mon affectivité qui s'éveille. Ce bois, oh, ce qu'il est doux. Alors, je suis très énervé. Je touche ce bois. Et la méthode Vitose, retrouvée à la sensation, ça m'appelle. Ah, je recommence à vivre, parce que je suis en contact avec l'autre. Il n'y a rien qui m'apaise plus que de retrouver le contact avec l'autre. Je m'éveille irrité, parce que on m'a réveillé en plein cauchemar. C'est imbécile de réveil. Il aurait pu attendre par politesse que mon cauchemar soit terminé. Il n'a pas terminé, il n'a pas attendu. Il est d'une impolitesse remarquable. Et je réponds par la même impolitesse. Espèce d'imbécile. Et je me réveille dans l'imbécilité du réveil, qui est la mienne. Je n'ai aucun contact avec le réel. C'est mon imaginaire. Et je continue. Et quelqu'un frappe ma porte. Quel est cet imbécile ? Et je continue. Je suis de mauvaise humeur. Je reste enfermé dedans. Si je peux retrouver la prière, la sensation, le lever de soleil, un lever de soleil remarquable ce matin, après l'épiphanie, c'est pas étonnant, merveilleux. Ah, ça m'apaise. Tellement apaisant le ciel. Quelque chose que je ne peux pas changer, qui s'impose à moi et qui est beau. Ah, comme c'est reposant. Contact avec le réel. Le réel n'est jamais une mauvaise humeur. Quand vous êtes de mauvaise humeur, c'est votre traître de raison. C'est le vieux scolastique en vous qui se réveille d'une mauvaise humeur. Et je cherche alors le contact avec le réel pour me réconcilier avec lui. Vous voyez là, l'expérience, la méthode Vitose. Et la philosophie se rejoignent. La différence, c'est que le philosophe veut dépasser l'expérience et réfléchir sur l'expérience. Alors il le fait de deux manières, par la phénoménologie, le logos dans le phénomène. Phénomène, ça peut être ma mauvaise humeur. Parce que c'est un phénomène, ça. C'est l'eau qui boue. C'est un phénomène. Et mon logos dans mon phénomène, la phénoménologie, le logos du phénomène. Et je peux dépasser le logos du phénomène par l'expérience. Ah, l'expérience me repose. La phénoménologie ne me repose pas. Alors, de quelle manière la personnalité doit-elle assumer et dépasser l'individualité? En réalité, il ne faut pas dire la personnalité, c'est abstrait. Ce par quoi la personne est personne. Or, ce par quoi la personne est personne n'assume rien. C'est un langage abstrait. En réalité, c'est la personne qui assume l'individu. Vous pouvez regarder la personnalité et l'individualité. Alors, qu'est-ce que c'est la personne? La personnalité, ce par quoi une personne est personne. L'individualité, ce par quoi un individu est individu. Ce sont deux principes. L'individualité, ex parte materiae. La personnalité, ex parte finalitatis. Vous voyez, la matière et la fin. Et c'est vrai. La matière et la fin. La fin n'assume pas la matière. Non. La fin respecte la matière. Donc si vous êtes au niveau abstrait, personnalité, individualité, vous ne pouvez pas comprendre ce que c'est que d'assumer. Assumer, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que l'inférieur est incapable par lui-même de se dépasser, d'aller plus loin. La matière, comme matière, demeure dans l'immanence de la matière. L'individu qui se prend ex parte materiae demeure individu et n'est pas dépassé. Donc, voyez, habituez-vous à comprendre la différence entre les mots abstraits et les mots concrets. Ça, ça fait partie de votre éducation personnelle. Et c'est élémentaire. Vous voyez, de quelle manière la personnalité doit-elle assumer et dépasser l'individualité? En aucune manière. Puisque personnalité, c'est un principe formel, ce par quoi la personne est personne. Individualité, ce par quoi l'individu est individu. Et ces deux principes sont distincts, c'est tout. Mais le concret, c'est la personne. En quoi la personne qui est liée à l'individu, en moi, je fais une œuvre personnelle, ce matin, en me réveillant, venant au cours, priant. Je fais une œuvre personnelle. Comment j'assume l'individu? Eh oui, tout de suite, je me réveille. Se réveiller, est-ce un acte de votre personne ou de votre individu? Posez-vous la question. Est-ce que c'est l'individu qui se réveille? Oui, c'est sûr. Je dors parce que je suis un individu, je suis lié à mon corps. Si je n'avais pas de corps, je ne dormirais plus. Oh, béatitudo. Si j'avais plus de corps, c'est à cause de mon corps que j'ai besoin de dormir, que j'ai besoin de manger. Ça, c'est vrai. Et qu'est-ce qui me permet de me réveiller? Qu'est-ce qui me permet de me réveiller? Est-ce que c'est mon réveil? Non. C'est moi-même qui domine mon corps. Et vous réveillez de bonne humeur en disant « J'ai bien dormi, cette journée sera merveilleuse. » On l'offre au Seigneur, premier acte. Vous ne pouvez pas être de mauvaise humeur en face de Jésus. Vous ne pouvez pas être de mauvaise humeur en face de Dieu. Ça ne signifie rien du tout. Parce que lui n'est jamais de mauvaise humeur. Alors c'est la personne, mon âme spirituelle, qui me réveille. Alors, comment ça se fait? Comment votre âme spirituelle peut-elle, à chaque matin, assumer l'individu? L'individu en vous n'aurait qu'un seul désir, c'est de dormir tout le temps. Ou de jamais dormir. Ça dépend, s'il est énervé, jamais dormir. Ne dormons plus, soyons des ascètes, puis attendons qu'on dégringole par terre. C'est Jean-Jacques Rousseau qui disait ça. C'est pas loin, Jean-Jacques Rousseau. Je connais des personnes qui vous racontaient encore la méthode de Jean-Jacques Rousseau. En famille, on disait jamais aux enfants, c'est l'heure, il faut aller vous coucher. Non, on attendait les petits gosses au repas du soir. Alors, on disait jamais, allez vous coucher. Ah non, 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 c'est contraire à Jean-Jacques. Et alors, on les ramassait. Et on allait les coucher. Je croyais que c'était dans les livres, ça. Non, c'était dans la réalité. Alors là, vous voyez bien comment la personne abdique d'assumer l'individu. Il y a des quantités de gens qui abdiquent l'individu pour laisser. Il y a des quantités de personnes qui abdiquent la personnalité pour laisser l'individu avoir son rythme. Le petit animal qu'on caresse, plus fatigué, dort. Surtout ne t'éveille pas. Et puis la personne qui dit non. Ben, il y a en nous les deux. Nous nous sommes réveillés ce matin, pourquoi ? Par obéissance, pour prier, pour que cette journée soit offerte à Dieu. Voilà la finalité. Et c'est ça qui nous a donné la force. Si nous n'avions pas ça, on aurait dit, oh, je suis fatigué. Oui, c'est bien vrai, je suis fatigué. Oui, vaut mieux que je dorme. Je continue de dormir. Puis on vient à 10 heures. Oh, je suis encore très fatigué. Non, l'individu continue de fatiguer, ce qui est normal. Comme individu, il aime de dormir. Et la personne. Donc vous voyez, le philosophe essaie de voir en nous, il y a ces deux principes, le corps et l'âme. C'est bien évident. Nier ces deux principes, c'est dire n'est humain que ce dont j'ai conscience. Merleau-Ponty. Merleau-Ponty, la distinction de l'âme et du corps, c'est faux. Le premier Merleau-Ponty, pas le second. Quand il s'est réveillé, le premier Merleau-Ponty, il dit, n'est humain que la conscience. Or, je n'ai pas conscience d'avoir un corps distinct de mon âme. Je n'ai jamais vu mon corps se balader sans mon âme. Toute distinction pour Merleau-Ponty implique une séparation. Si je pouvais réveiller laissant mon âme en dehors, oui, il y aurait la dualité. Je dirais, la dualité n'est pas humaine. Et c'est vrai. Ce qui est humain, c'est l'unité. C'est la conscience que j'ai de me réveiller. C'est la conscience que j'ai de me lever. C'est la conscience que j'ai, ainsi de suite, tous les autres. Or, la conscience implique l'unité de mon corps et de mon âme. C'est vrai. J'ai conscience de me réveiller. J'ai conscience de faire mon travail. Donc, à cause de la conscience, il n'y a qu'une conscience. Il n'y a pas de distinction entre l'âme et le corps. C'est important de se rappeler ça, parce qu'aujourd'hui, du temps de Merleau-Ponty, quand il était à la Sorbonne, au Solchoir, pas très loin de Paris, on avait toutes les semaines des étudiants qui suivaient les cours de Merleau-Ponty et qui venaient. Qu'est-ce que vous dites sur ça ? Pas seulement au Solchoir, mais quand j'étais aussi à Fribourg, j'ai retrouvé la même chose. C'était le professeur de philosophie de Lausanne. Il m'a dit, tous mes étudiants sont disciples de Merleau-Ponty. N'acceptent plus la distinction de l'âme et du corps. Il m'a regardé, vous l'acceptez ? Je dis oui. Au point de vue philosophique, oui. Est-ce que vous ne pourriez pas me l'anatomie du corps, c'est pas si bête. Il m'a dit, je peux pas vous inviter à l'université. Vous êtes professeur à Fribourg, catholique. Je peux pas. Alors je dis, mais on peut se trouver chez n'importe qui à Lausanne. Ah oui, c'est vrai. Et alors on s'est retrouvé chez n'importe qui. Il était ni catholique ni protestant, mais qui cherchait la vérité. Parce qu'il y avait un très grand avantage à Lausanne, c'est qu'un des grands disciples d'Aristote, Pacius, était de Morges, tout près, sur le lac. Alors j'avais fait exprès le pèlerinage sur la tombe de ce Pacius. Et je pouvais dire ça à tous les calvinistes, qui étaient plus calvinistes qu'eux, parce que j'avais été vers Pacius, qui était aristotélicien. Aristote est en dehors de l'aspect confessionnel. Il cherche la vérité. C'est très important, vous voyez. Parce qu'au fond, c'est par là qu'on rétablit l'unité. Pas par des compromis, par la vérité. Et des étudiants calvinistes devenant aristotéliciens cherchaient la vérité. Et ça, c'était intéressant. C'était la vraie manière, je crois, de l'œcuménisme. Parce qu'une manière où les uns et les autres perdent quelque chose d'eux, on se déplume. Ça ne va pas du tout. Tandis qu'au contraire, en cherchant la vérité, on avance. Or, si tous ont cherché la vérité, il n'y aurait plus de division. Toutes les divisions proviennent d'un manque de recherche de la vérité. Et dès qu'on est en phase de division, mais recherchons la vérité, ayons le courage. Ayant le courage de temps en temps de dire, moi j'ai plus la force de chercher la vérité. Je reste comme je suis, tant pis, je serai seul, je mourrai seul, je mourrai seul. Dès qu'on est devant une division, cherchons la vérité. C'est le grand principe et l'unique principe de l'œcuménisme. Il n'y en a pas 36, il n'y a que celui-là. Alors là, on avance. Alors on peut très bien dire, c'est tellement délicat qu'on va ensemble prendre là où on est d'accord. Mais on n'ira pas plus loin. C'est, on a le droit de faire ça. On fait ça pour un enfant qui apprend à marcher. On va le faire sauter tout de suite, hein, avec une perche. Non, il faut d'abord qu'il apprenne à marcher. On cherche la rencontre, le point de rencontre. L'œcuménisme, c'est la recherche du point de rencontre, et puis d'aller plus loin. Parce que, et je crois que c'est la seule manière d'un travail positif. Autrement, on discute indéfiniment, et on n'avance à rien. Or, le point de rencontre, c'est la finalité. C'est la finalité. La recherche de la vérité. Alors voyez, c'est là le second point de la recherche de la personne au niveau philosophique. On a précisé l'autonomie substantielle, individuelle. Mon âme fait l'unité de mon être. J'ai cette unité, et cette unité a ceci de tout à fait original, c'est qu'elle est unique. Jamais je ne pourrai vous remplacer. Et jamais vous pouvez me remplacer au point de vue de l'autonomie métaphysique. La personne humaine implique cette autonomie, substance individuelle, la rencontre de la personne et de l'individu. C'est unique. En chacun d'entre nous, il y a cette rencontre. Comment ça va pas? On vous dit, ah, vous n'avez pas accepté votre individualité. Vous n'acceptez pas votre corps. Vous n'avez pas pris conscience de ça, mais au fond, vous n'avez pas accepté. Alors, c'est juste, et en même temps, c'est pas très juste. Parce que je n'ai pas l'expérience de la séparation de mon âme et du corps. J'ai l'expérience de ma conscience. Alors je peux dire, vous avez une propension à exalter tout ce qui relève de votre raison, de votre intelligence, de votre raison. Et vous avez une propension à rejeter tout ce qui vient de votre individualité. Oui, si on avait un appareil qui nous montrait exactement ce qui, dans notre journée, relève de la personne, relève de l'individu, ce serait très intéressant. Parce que chacun d'entre nous, on aime notre corps, et en même temps, on se dit, ah, d'empoisonnant, ce corps, il me limite. Je suis ici, je ne peux pas être dans mon lit, t'embêtant. Il faut tout le temps choisir, et c'est vrai. Et je choisis tout le temps. Je choisis le soir, quand je suis fatigué, m'endormir. Et à partir du choix et de la réalité, il y a un petit abîme. Je choisis le matin de me lever entre le choix et la réalité, l'abîme est moins grand. Parce qu'il dépend de moi. Tandis que m'endormir, ça ne dépend pas exactement de moi. C'est quand vous arrêtez une voiture tout en haut d'une petite colline, vous avez beau l'arrêter, elle continue de rouler et à descendre. Et à côté de vous, il y a qui dit, mais arrête, arrête. Non, ça descend. Le moteur est arrêté, ça descend. Et c'est ce qui se passe quand vous voulez vous endormir et que vous êtes très, très tendu. Ça continue de ronfler. Vous voyez, les limites par lesquelles je domine mon corps, mais c'est sûr que mon autonomie, elle est unique. Elle est unique pour chacun d'entre nous. Et nous n'avons pas un pouvoir direct sur cela. Nous n'avons pas de pouvoir direct. Alors, je construis ma personne. Oui. Et ma personne implique cette unité. Vivre dans cette dualité, ça devient impossible à un moment donné. Ça craque, impossible. Alors, retrouve cette unité. Comment vous la retrouvez? Par la recherche de votre finalité. C'est le seul moyen. Il n'y en a pas d'autre. On vous donnera des médicaments pour pacifier la tension. Mais c'est pas ça qui me fait l'unité. L'unité, elle ne peut être que dans ce qui est source de ma conscience. Qu'est-ce qui est source de ma conscience? J'ai conscience d'être un individu, d'être une personne, de sentir les deux en moi, en harmonie. Et j'ai conscience qu'il y a en moi des possibilités tout le temps nouvelles d'aller plus loin dans mon unité personnelle, dans le caractère propre de ma personne. Je deviens ma personnalité, ma personne, et quelque chose que j'acquiers. Je peux m'auto-éduquer. À un moment donné, j'ai subi une éducation. J'en musicien, je subis une éducation. Je vais le permettre, me dit à un moment donné, mais si vous ne coopérez pas, je ne peux rien faire. Et c'est vrai. Au plan spirituel, au plan de votre personne, si vous ne coopérez pas, vous ne pouvez rien faire. Vous pouvez vivre indéfiniment avec un collier au cou, d'être d'une obéissance parfaite, merveilleuse. On vous dit d'arrêter, vous arrêtez. Est-ce que c'est ça votre la croissance de votre personne? Non. C'est votre individualité. Si vous ne coopérez pas, et comment pouvez-vous coopérer? Vous coopérez avec celui qui est là pour vous aider. Si vous avez la même finalité, l'obéissance n'est une obéissance humaine qui est intégrée dans la vie que si celui qui commande et celui qui obéit ont la même finalité. Les fautes, ce n'est pas à l'égard de celui qui commande. C'est à l'égard des deux. Vous avez obéi. En obéissant, vous avez fait vôtre l'acte de celui qui avait autorité sur vous. Si, en obéissant, ça rate, et vous dites à ce moment-là, c'est à cause de toi, j'obéis. Ah, pardon, c'est à cause de nous deux. Vous avez obéi, donc vous avez accepté ce que je disais. Et vous l'avez accepté librement. C'est un contrat. Celui qui rejette toujours la faute sur celui qui commande ne s'éduque pas. L'eau glisse sur lui, comme sur la peau d'un canard, sur les plumes d'un canard. Ça glisse. Pour obéir, il faut faire sien l'acte de celui qui commande. C'est trop facile de rejeter la responsabilité sur celui qui commande. Parce qu'alors, au bout d'un certain temps, celui qui a autorité dit, c'est bien simple, je ne dis plus rien, puisque c'est moi seul qui porte la responsabilité. Je ne peux pas. On coopère. Et ça, c'est la clé pour croître dans la personnalité. On s'éduque. Autrement, si on ne coopère pas, c'est du dressage. Il n'y a pas de coopération humaine. On dresse l'animal, et puis c'est tout. Un animal aurait le droit de dire à son maître, « Tu m'as mal dressé. » Je me souviens, quelqu'un qui avait un très beau gène, très racé, qui essayait de le dresser. Et ce chien, quand il est arrivé à un âge où l'espèce de ce chien a repris tous ses droits, toute l'éducation, tout le dressage qu'il a reçu, ça ne signifie de rien. On a retrouvé le loup. Très souvent, l'éducation qu'on a reçue est un dressage. Et quand on arrive à un âge adulte, on retrouve le loup. Et toute l'éducation a glissé, glissé, glissé. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas coopéré. On a reçu. Pour qu'il n'y ait pas d'histoire, on n'a pas coopéré. Et on a eu tout le temps. J'obéis parce qu'il faut obéir, parce qu'il faut obéir. Alors, peut-être, extérieurement, c'est très propre. Mais intérieurement, il n'y a pas eu ce progrès dans la recherche de la vérité. L'éveil de la recherche de la vérité spéculative, la vérité pratique, la vérité à travers toute ma vie, le permettre. Je coopère autrement avec l'Esprit Saint. Je coopère autrement avec mon professeur. Je coopère autrement avec celui qui m'apprend tel métier, la cuisine, ainsi de suite. Vous voyez, la coopération, c'est ce moment précis où j'accepte mes limites et je veux en sortir, aller plus loin. Et pour cela, j'ai besoin de quelqu'un plus avancé que moi, qui va me permettre de m'appuyer sur lui et de coopérer avec lui pour faire un pas en avant. L'éveil de mon intelligence. Par où j'ai à la fois mon autonomie, c'est mon intelligence, et à la fois je comprends mes limites, et pour me dépasser j'ai besoin de l'aide d'un autre. L'éveil premier de l'intelligence est toujours dans une coopération, et c'est là où je comprends comment je suis à la fois une personne. J'ai mon autonomie, c'est vrai, et comment je dois grandir. Ce n'est pas deux moments différents, c'est dans la coopération. À la fois, j'accepte cette autonomie que j'ai, et j'accepte l'autre, dans la recherche de la vérité. Il y a certaines personnes qui sont plus âgées que moi, qui ont déjà vécu. Je me mets à leur école. Ou au contraire, je cherche. J'ai personne qui me comprend. Je suis seul. J'avance tout seul. Mais je sais que c'est très difficile. Et j'attends d'avoir une main secourable qui vient me tirer de là. Quand on réfléchit bien, voyez, sur ce qu'est notre personne, on voit bien à la fois la prise de conscience de cette autonomie, la prise de conscience de cette exigence d'avancer, d'éveil, d'une recherche au plus intime de moi. Seconde dimension de ma personne. Je suis responsable de la croissance de ma personne. Je suis responsable d'avancer par moi-même et d'acquérir une plus grande autonomie et un sens plus grand